Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'écho des entreprises sur votre radio, Eau de Radio, fréquence 91.3. Nous sommes le 7 décembre 2020. Ça fait un an au bas mot que le premier cas de coronavirus a été officiellement diagnostiqué dans la province chinoise de Hubei, où se situe la ville de Wuhan, épicentre d'une pandémie devenue mondiale. Depuis, près d'1,5 million de morts et un séisme social et économique qui n'a pas fini de générer des répliques. Ce week-end, après une seconde phase de fermeture douloureusement vécue par les commerçants et artisans de proximité, la question de la continuité commerciale se pose plus crûment encore. Comment préserver sa relation client et sa rentabilité ? La pandémie, les restrictions qu'elle a entraînées, ont mis davantage en lumière les profondes disparités entre les entreprises digitalisées et celles qui n'ont pas encore négocié le virage numérique. Si plus de la moitié des consommateurs français effectuent des achats en ligne, seule une PME sur 8 propose ses produits ou services en ligne. Face à ce ratio, il est facile d'imaginer les opportunités qui s'ouvrent aux entreprises qui choisissent la digitalisation de leur société. Cependant, comment amorcer sans risque de dérapage incontrôlé ce virage numérique qui promet d'offrir aux PME françaises de nouvelles opportunités de marché ? Quels outils mettre en place ? Quelles stratégies ? Quelle formation et ensuite, quelle communication adopter ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Webb, fondateur de l'agence Ready for Digital, avec nous dans ce studio. Bonsoir Philippe Webb.
Bonsoir Richard.
Merci d'être avec nous. Avec nous également Hélène Boulet, qui tient une boutique de proximité engagée, comme elle la nomme elle-même, La Petite Surface à Bègle. Du réemploi, du recyclage, du détournement de textiles, lit-on sur votre à propos dans votre page Facebook, parce qu'on va en parler. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Bonsoir Hélène Boulet.
Bonsoir Aïcha.
Et bien sûr, à mes côtés, Ayat Thiénot, pour vous accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir Ayat.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes également chef d'une entreprise de création de mode féminine, Rokhaya Mina Création, et styliste. Je crois que vous avez préparé pas mal de questions aussi pour nous inviter.
Tout à fait.
On vous entendra tout à l'heure, mais sans plus tarder, je vous propose d'écouter Nazem Samad. Nazem Samad est collaborateur chez Apalga, une agence de développement web, Android et iOS. Il est développeur de sites internet et d'applications, spécialiste de l'e-marketing et de l'e-business. On l'écoute et je vous demanderai de réagir après.
Nous sommes une agence familiale qui a créé la structure il y a 7 ans. Apalga est devenue une société il y a 5 ans et notre activité donc principale, c'est le développement de sites internet vitrine et e-commerce ainsi que les applications mobiles Android et iOS. On est basé sur Bordeaux-Bastide. Ce qui fait notre force, c'est d'avoir les deux compétences, à la fois techniques, développeur full stack pour mon frère et marketing. Je suis spécialisé en marketing et business. Ce qui nous permet d'être capable de fournir en fait des prestations vraiment complètes. On va faire du référencement naturel, de la création de modules sur mesure, du web design. Enfin, on va vraiment être capable de fournir une prestation clé en main et sur mesure. Et on tient à ça, ou sur mesure, c'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment à chaque client, que ce soit pour le design ou pour le contenu. On ne duplique pas de projet et on tient à ce que donc ça soit toujours sur mesure et évolutif. Puis après, que dire d'autre, on travaille avec tous les types d'entreprises et tous les secteurs d'activité.
Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un commerçant qui n'aurait pas encore mis en place rien, ni le click and collect, ni la vente en ligne ? Par où est-ce qu'il pourrait commencer pour se digitaliser ?
Alors, tout va vraiment dépendre de l'objectif de chacun. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quelqu'un veut une présence en ligne dans l'urgence, hein, face à la crise du Covid, par exemple, si c'est un restaurateur, honnêtement, autant utiliser des plateformes mutualisées déjà existantes, les applications qu'on connaît tous, par exemple. Après, si c'est quand même un projet qui est sur plus long terme, c'est-à-dire que c'est pas trouver une solution par rapport à la crise actuelle, c'est vraiment, en fait, cette crise actuelle nous fait prendre conscience qu'on a peut-être un autre canal de distribution à envisager, qu'on a peut-être d'autres façons de vendre, d'autres façons d'être en contact avec notre clientèle. Là, c'est un projet sur le long terme. Et c'est intéressant, du coup, de réfléchir à un projet vraiment sur mesure et spécialisé pour son entreprise. Après, honnêtement, il y a eu une évolution. Au premier confinement, on fait tomber un petit peu sur les commerçants, les restaurateurs. Il n'y avait aucune solution. Bon, commerçants, il n'y avait pas grand-chose de mise en place. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se font au niveau local avec des marketplaces, des places de marché, c'est des sites où plusieurs commerçants peuvent mutualiser en fait leur offre et vendre localement. Là encore une fois, est-ce que c'est du long terme, du court terme? Après, pour quelqu'un qui a un vrai projet, qui a vraiment envie d'ancrer ça dans sa façon de travailler, il faut savoir quand même que, si je prends l'exemple de la vente en ligne pour un commerce, c'est très bien, ça permet d'avoir un canal de distribution ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est le super côté. Et qu'avec le référencement naturel, notre zone de chalandise, c'est plus Bordeaux, mais ça peut aussi être quelqu'un de Dordogne ou de Paris qui va venir acheter dans notre boutique. Par contre, derrière, il faut quand même bien se rendre compte qu'il faut aussi savoir gérer les expéditions. Il faut gérer aussi le SAV, hein, les colis perdus ou cassés. Ça fait malheureusement partie du jeu. Et par exemple, si on fait du click and collect, bah, je vais prendre une expérience personnelle. Si en ligne, on explique en fait, le produit sera disponible sous 1 à 2 heures et que 3 heures après, il n'y a rien qui est disponible en boutique et même 4 jours après, on n'a toujours pas pu récupérer les produits. Là, l'effet, il sera vraiment négatif pour le commerçant. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie globale et penser à est-ce qu'on est capable de le faire, est-ce que ça va nous apporter quelque chose, et est-ce qu'on a aussi envie de se donner les moyens de faire ça.
Ce qu'on entend surtout, c'est qu'il est absolument nécessaire, si on a une stratégie à moyen et long terme, d'éviter quelques écueils et d'imaginer des outils, un site par exemple, mais avec une possibilité d'évolution qui soit évolutif et qui ne soit pas figé dans un instant donné pour répondre à une crise donnée, c'est bien ça.
C'est ça. Après, encore une fois, ça dépendra des objectifs de la personne, mais globalement, oui. C'est un objectif à long terme de vraiment faire de l'e-commerce. Il faut effectivement pas faire un site pour faire un site, parce que voilà, on en a besoin maintenant, c'est compliqué avec le Covid, il faut faire quelque chose. Il faut faire attention, bah, c'est effectivement, oui, c'est ça. Il faut que ce soit aussi une solution qui soit évolutive. On peut mettre en place quelque chose de très rapide, de très simple. Mais derrière, effectivement, si c'est un projet à long terme, il faut quand même penser un petit peu plus loin que la solution rapide. Et une entreprise, ça évolue. Donc effectivement, il faut que derrière, les outils qu'on met en place puissent suivre. C'est que par exemple, aujourd'hui, si on est un commerçant local qui veut proposer un site en ligne pour vendre à sa clientèle existante, il peut très bien faire un site rapide. Parce que sa clientèle existante, elle va aller sur son site, elle va acheter. Par contre, si la stratégie, c'est justement avec ce site de vendre à la clientèle existante, mais de développer une autre zone de chalandise, une autre clientèle, il va falloir travailler le référencement, il va falloir travailler ce qu'on appelle la réassurance. Les gens ne voient pas la personne en face hein, lorsqu'on est en ligne, donc il faut rassurer le client. Et tout ça, ça va demander forcément un travail, une stratégie plus importante à mettre en place.
Sur votre site apalga.fr, A2PALGA, pour ceux qui nous écoutent, qui est très bien fait, soit dit en passant, vous mettez plein d'infos utiles. Vous avez abordé à l'instant la question du financement. On sait que beaucoup d'entreprises peinent à franchir le virage numérique, justement, faute de temps et d'argent. Et par exemple, vous indiquez dans un de vos articles que la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, met en place un certain nombre d'aides à la digitalisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors effectivement, la CPME et la région Nouvelle-Aquitaine ont vraiment mis en place quelque chose de très intéressant, qui est une aide pour accompagner à la transition numérique des entreprises. Ce qui est bien, c'est que c'est global. Ça va commencer par l'accompagnement stratégique jusqu'à une aide financière pour la mise en place des outils. Ce sont des actions qui vont durer entre 1 an à 2 ans pour accompagner donc les professionnels dans leur transition numérique. Alors, c'est pas mal orienté vers le e-commerce, mais pas que. Parce que souvent, c'est vrai qu'on pense au e-commerce, mais il n'y a pas que e-commerce. Ça peut aussi être des outils qui vont faciliter la relation entre le client et l'entreprise. Parce que le e-commerce, ça va s'adresser notamment forcément aux commerçants ou à ceux qui vendent des produits. Mais améliorer l'échange entre l'artisan et le client, par exemple, ça peut se faire avec la présence des facturations en ligne, une possibilité de payer des prestations de services en ligne. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Dans toutes ces démarches proposées par la CPME et la région Nouvelle-Aquitaine, il y a un accompagnement à la stratégie. Donc justement, ils vont aussi accompagner les professionnels dans cette démarche.
Et c'est ce que vous faites, vous, au sein de la société Apalga. Vous faites d'abord un état des lieux, Vous estimez les besoins et ensuite vous proposez la solution la plus adaptée?
Alors ça, c'est toujours ce qu'on fait. Alors forcément, en général, les clients qui nous contactent, ils ont quand même une idée de ce qu'ils veulent. Mais on fait toujours un rendez-vous où on va discuter déjà avec le client pour le connaître, pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il propose, quelle est sa cible. L'analyse marketing limite scolaire, on va dire, de notre client, pour après justement réfléchir à l'outil qu'on pourrait mettre en place en respectant ce pourquoi il nous a appelé, mais on va peut-être penser à des modules auxquels il n'aurait pas pensé, à une prestation en supplément qui pourrait faire la différence par rapport à ses concurrents. C'est important et puis ça permet aussi que tous les professionnels se démarquent entre eux. On a deux appels, par exemple, de professionnels du bâtiment, de maçons qui veulent un site internet. Ben, si on ne prend pas le temps de les connaître, de savoir ce qu'ils font, nos sites, ça va être du copier-coller et ils n'auront aucun avantage concurrentiel, aucune chose à mettre en avant pour leurs clients. Alors que si justement on prend le temps de les connaître, de voir leurs avantages, ben ça, on va pouvoir le retranscrire et ça sera mieux pour leur clientèle.
Merci Nazem.
C'est quelque chose d'important.
Vous venez d'écouter Nazem Samad, développeur chez Apalga, Philippe Webb. Vous êtes le fondateur de Ready for Digital. Est-ce que vous pouvez avant de nous donner vos réactions à ce que vous venez d'entendre, nous parler déjà de votre agence et ensuite nous expliquer pourquoi pas les différentes étapes à ne pas négliger dans un processus de digitalisation. Puisque prendre un virage numérique dans la stratégie et l'organisation internet de société, c'est plus que faire un site, on est d'accord, après ce qu'on vient d'entendre.
Oui, bonsoir. Deux questions en une. Premièrement, Ready for Digital, effectivement, nous sommes un cabinet d'accompagnement et de conseil pour les PME, les TPE, basé à Bordeaux, où nous avons plusieurs consultants et chefs de projet. Notre positionnement, c'est d'aider les chefs d'entreprise et les commerçants, entre autres en ce moment, de mieux cerner la problématique de la digitalisation de leur entreprise. Effectivement, la solution court terme, très court terme, c'est le click and collect, mais c'est juste une solution court terme. Parce que le fondamental du digital, c'est s'occuper de la relation client, c'est s'occuper du développement de l'expérience client, c'est assurer un environnement de e-commerçant de proximité, tel que nous, on pourrait l'appeler. Et dans e-commerçant de proximité, il y a le mot e-commerce et proximité. Et ça, c'est assez fabuleux parce que moi qui aime aller en centre-ville faire mes courses, je peux me renseigner sur mon commerçant ou mes commerçants favoris de centre-ville par le biais de la technologie Internet. Et je vais ensuite aller visiter ce commerçant pour faire mes courses. Mais mes courses, comme si j'allais dans un marché traditionnel, je pars avec mon panier et je ne fais pas qu'une course, je fais plusieurs courses. Et donc, il y a cette notion de quartier qui doit se développer avec le commerce. Donc, nous, notre approche, c'est de travailler avec nos clients sur quatre aspects. Qu'est-ce qui va favoriser la croissance? Qu'est-ce qui va favoriser la compétitivité? Qu'est-ce qui va favoriser l'innovation? Parce qu'il y a beaucoup d'innovation à apporter dans un magasin. Et qu'est-ce qui va apporter une rentabilité? Parce qu'on est bien là pour faire de la croissance et de la rentabilité. Et le digital, c'est jamais qu'un moyen supplémentaire de ce que nous faisions par le passé. Alors, on parle de quoi? Ben, pour vous donner quelques chiffres, c'est intéressant parce que les dernières études de marché le démontrent. 80% des entreprises qui favorisent le e-commerçant de proximité, donc qui ont un environnement dit figital, donc physique plus digital, 80% sont en croissance. 80%, 63% en augmentation de chiffre d'affaires. Et 42% en augmentation de la zone d'achalandise. Donc on voit bien que si on arrive à bien comprendre l'individu au sens acheteur, on peut lui faire un chemin d'achat. Il n'y a pas de logique que tout le monde achète sur Internet, il n'y en a pas. Sinon, on reste à la maison, on se calfeutre, on attend que ça se passe, on prend Netflix, on n'a plus de cinéma, on n'a plus de vie personnelle, et on fait toutes ses courses sur Internet. Or, la vie française, ce n'est pas ça. Nous sommes latins, on aime les contacts, et on aime aller au-devant des bons produits, et surtout des commerçants français. Bon, évidemment, il y a les phénomènes de e-commerce. Le phénomène de e-commerce, c'est la facilité. C'est je cherche, je trouve, je choisis, j'achète. Mais ça, c'est un vrai produit commun. C'est de la commodité. Or, ce qu'on cherche avec le commerce de proximité, c'est la valeur ajoutée service. C'est le plaisir d'être dans un magasin, c'est le plaisir de choisir, le plaisir de toucher, le plaisir de discuter, et surtout le plaisir d'être conseillé. Les vendeurs de commerçants sont bien des conseillers de vente. Mmh. Et ben, il faut bien appliquer ça dans le modèle figital.
Et justement, ne pas regarder avec envie ces plateformes que tout le monde aura reconnues, donc, qui sont des pure players, mais ajouter cette valeur humaine de proximité chez Ready for Digital, comment s'y prend-on ? On va à la rencontre des commerçants, racontez-nous concrètement.
Eh bien, écoutez, évidemment, c'est un peu compliqué et c'est un peu complexe. Il ne faut pas croire que c'est simple, d'accord ? Mais il ne faut pas croire non plus que c'est extrêmement complexe, mais ça prend du temps. Ça prend quelques réunions de travail, ça prend une compréhension de ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment s'appuyer sur les données d'entreprise. Les données, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon stock ? C'est à qui je dois le vendre et comment je dois le vendre. Ça, on peut le digitaliser. Mmh. Ensuite, il faut informer la base clientèle. Dans le temps, tous les commerçants, ils avaient la carte de fidélité. Ils avaient un répertoire de clientèle. On venait, on était reconnus. Il faut continuer ça. Le digital change rien. Donc, il faut continuer à amener cette valeur de relation client, mais au travers d'outils digitaux. On peut avoir une carte de fidélité digitale. On peut avoir une gestion de la relation client digitale. Il faut l'avoir. Donc, quand je parlais tout à l'heure du click and collect, c'est la solution la plus simple. Le click and collect ne facilite pas la compréhension et la nécessité d'avoir une gestion de la relation client. C'est facile, c'est du click and collect. C'est très vite, tout de suite.
Oui,
d'accord.
D'autant que même le click and collect, certains restaurants en étaient dépourvus parce qu'il faut quand même une petite manipulation juridique hein, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas. Il faut quand même, dans ces statuts entrepreneuriat, faire, et un certain nombre d'entreprises sont freinées par ça, par une appréhension de l'outil digital. Est-ce que ça, vous le rencontrez dans votre métier ? Je ne saurais pas faire, c'est là que vous intervenez.
Non, mais tout le temps. Et puis ça, ce n'est pas uniquement pour les commerçants. C'est toutes les TPE, au-delà de la PME, voire de l'OTI. Il y a peu de gens qui comprennent exactement ce qu'est le digital. Parce que le digital, ce n'est pas que l'informatique et ce n'est pas que le site Internet. C'est tout ce qui est autour. Alors, je vais vous donner quelques exemples, si vous permettez bien.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut donner de la visibilité. Il faut améliorer l'expérience digitale en magasin. Il existe des bornes électroniques, par exemple, d'information. On peut s'en équiper. On peut faire la gestion de la relation client, je l'ai dit, mais on peut aussi personnaliser la relation client parce qu'on connaît sa date d'anniversaire, on connaît ses goûts et c'est tout ça qui va faire la richesse de la relation. Vous croyez que les grandes plateformes connaissent bien leurs clients ? Ils ne connaissent pas leurs clients. Ils poussent à l'achat. Nous, on veut faire en sorte que le client achète en lui mettant en valeur les services du magasin. On veut avoir des flexibilités, soit des livraisons, soit de reprise du matériel en magasin. Faut faire l'agilité. Faut aussi étudier les avis. Vous savez, les avis certifiés. TripAdvisor, c'est quand même le fonds de commerce, c'est les avis certifiés. Combien de commerçants ou même d'entreprises en France ont des avis certifiés sur leur activité ? Ça serait génial. Et ensuite, il y a ces fameuses plateformes de services. Moi, j'aime bien les plateformes de services, je vais vous le dire quelque chose, mais de proximité. Idéalement, ça serait quoi ? Je suis dans la rue Sainte-Catherine, par exemple, ou des commerçants de centre-ville de ce nom. Et qu'est-ce que je fais ? Je me regroupe, puisque le client ne va pas venir que pour moi en centre-ville. C'est utopique de penser à ça. Il va venir pour faire ses achats. Autant lui mettre dans son panier la totalité de ses besoins. Autrement dit, un chausseur, il peut s'associer avec un vendeur de pantalons, qui peut s'associer avec un vendeur de chemises ou un vendeur de manteaux, voire de la parfumerie, voire des produits de beauté pour les jeunes femmes, par exemple.
Il y a des plateformes qui existent de ce type dans d'autres régions, pour ne pas les citer, et on a l'impression que dans notre région, ça tarde un petit peu à se mettre en place. Et l'idée, c'est quand même de mutualiser une clientèle de proximité, de favoriser le circuit court et de surfer aussi sur ce besoin qu'ont les Français d'aller, comme vous l'avez dit, au contact des bons produits, d'avoir aussi du conseil. On a dit aussi en début d'émission qu'il y avait quand même un retard français, si on compare à nos voisins allemands. Mais c'est vrai que quand on compare à tous les voisins européens, on se rend compte qu'il y a quand même un retard là-dessus. Comment ça s'explique ? C'est une question de culture ?
De culture, peut-être.
Ou de moyens.
De moyens, certainement.
Est-ce que justement, ce n'est pas une peur des entrepreneurs face à la charge de boulot et à la charge financière ? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, alors je ne sais pas si Hélène confirmera ou infirmera, mais en tant qu'entrepreneur, on se dit déjà avec la charge de boulot qu'on a, référencer nos produits, la création pour ceux qui en font, chercher les fournisseurs, etc. Est-ce que cette partie digitalisée, justement, ne fait pas peur ? Parce qu'on ne connaît pas les chiffres. Et comme vous avez dit, il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait plus par où commencer et quel budget.
Alors là, je vous entends très bien. C'est pour ça qu'il faut mutualiser au maximum l'approche. Par définition, par défaut, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va être la mort des commerçants de proximité ? Non. Or, les confinements successifs, plus les grèves, plus les gilets jaunes ou d'autres qui se baladent en ville, ils ont raison de manifester, mais en quelque part, c'est au détriment du commerce de centre-ville. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut attendre ou y aller ? Alors, il y a plein d'aides. Et nous, on est capable de mettre en évidence toutes les aides de la région.
C'est ça. C'est ce manque de vulgarisation.
Exactement.
En fait.
Ouais, donc, exactement. Notre prestation peut être prise en charge par la région. Nous sommes experts de la région Nouvelle-Aquitaine dans le domaine de la digitalisation. D'accord. Nous pouvons faire un bilan, nous pouvons proposer des solutions très simples, pas très coûteuses. Par exemple, référencer le magasin, créer une boutique en ligne, choisir le meilleur service de livraison, trouver et fidéliser de nouveaux clients. Tout ça, c'est des solutions très simples qui peuvent se mettre en place. Alors, je ne vous le cache pas, ça ne va pas coûter 0 francs, 0 euros. Par contre, la question, c'est quand vous investissez dans un magasin, quand vous investissez dans votre stock, quand vous investissez dans un réhabillage de votre magasin, dans des campagnes d'affichage et autres, vous mettez de l'argent sur la table pour votre outil de production. Il faut considérer le digital comme un vrai outil de production, mais différent. Sinon, c'est quoi ? Sinon, c'est la porte ouverte au e-commerce traditionnel, enfin traditionnel, seulement le e-commerce standard, on va dire aujourd'hui, au détriment du commerce de proximité. Moi, je considère qu'il faut faire du e-commerçant de proximité. Chaque commerçant doit avoir une plateforme au moins de communication et de gestion de sa relation client, de gestion de ses stocks et de sa communication active multi-support. Multi-support, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si j'ai quelqu'un qui se balade en centre-ville avec son smartphone, je dois être visible. Je dois être visible. Mais par contre, moi, je suis favorable à ce que l'Union des commerçants d'un centre-ville de ce nom, l'Union des commerçants d'un centre-ville de Bordeaux, etc., facilite la mise en place d'une plateforme de communication active multi-commerçant.
Un collectif de commerçants web.
Exactement. En fait. Et là, on va mutualiser, on va diviser les coûts par X fois le nombre de commerçants. Mmh. Si vous avez 10 commerçants, ça va être divisé par 10, 20 divisé par 20. Parce que c'est la même problématique. La clientèle est la même. Celle qui se balade en centre-ville de Bordeaux ou de ce nom tous les jours, qui passe d'un marché ou à un autre tous les jours, ou tous les samedis et tous les dimanches maintenant, ce sont les mêmes. Donc autant mutualiser. Et nous, chez Ready for Digital, c'est notre slogan. Il faut absolument aider les commerçants de proximité à se mutualiser, à développer des services en commun pour attirer des clientèles qui ont l'habitude d'être sur des grandes plateformes. Les grandes plateformes, qu'est-ce qu'elles font ? Vous allez sur Amazon ou d'autres, ils ont leurs propres produits qui vous livrent ou ils ont des propres produits qui sont référencés sur leur plateforme. C'est quoi ça ? C'est une plateforme mutualisée. Sauf qu'on peut faire la même chose. Vous imaginez le bonheur que ça serait d'avoir une plateforme mutualisée d'information, de communication et de disponibilité de produits tous les jours, remis à jour tous les jours, parce que les commerçants ont mutualisé leurs services. Mais le client bordelais que je suis, ben, il serait vachement content parce que finalement, il va se déplacer un samedi après-midi, il sait qu'il va y être 2-3 heures ou plus, et ben, il va faire ses courses et il aura son cheminement, son chemin de service et son chemin d'achat. C'est ça l'avenir.
Donc en fait,
c'est une vraie philosophie. Voilà. Je suis obligée de vous interrompre, Ayatiano. C'est l'heure de la pause musicale. Comme un baromètre des temps, la colère gronde, on vient de le dire. Quand certains manifestent pour continuer à dire, à filmer, à nommer, d'autres marchent. C'est une ode à la flânerie libératrice qu'on va écouter, Quand je marche, de Ben Mazuet.
Faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend, tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence ? Quand on souhaite être excellent, quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent, souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste,
de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me lever. Avance, ce sera sans baisse, sans flancher en jambes, le chantier des pensées. Les temps mêlés, je m'y collais sans délai. Mes soucis prenez-les et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter tant comme elle vient. Faut que je marche parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
Voici de retour dans le studio d'eau de radio, fréquence 91.3. Autour de la table, Philippe Webb de l'agence Ready for Digital pour parler de digitalisation des entreprises. Et également Hélène Boulet. C'est à votre tour, Hélène, de nous expliquer et de nous raconter votre aventure entrepreneuriale. Elle s'appelle La Petite Surface et c'est situé à Bègles. Mais qu'est-ce que c'est ?
Tout à fait. Bonsoir. Alors, pour ma part, j'ai ouvert Petite Surface, donc une boutique de proximité engagée, le 14 octobre 2020. Donc, c'est une boutique, alors, pour la présenter brièvement, qui propose uniquement des pièces qui sont issues du réemploi. Donc, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le surcyclage, le upcycling, revalorisation de la matière recyclable, le recyclage ou le détournement d'objets. Et on propose donc des produits de type bijoux, textiles, accessoires, déco, papeterie ou illustration. L'idée, en fait, les maîtres mots de ce projet, ce qui m'a motivée à ouvrir cette boutique, c'était que ce soit une boutique de proximité. Donc, concrètement, rencontrer les gens, aller dans un quartier, en fait, ça se situe cours Victor Hugo, dans un quartier très marqué par ces commerces de proximité, où les gens y sont très attachés. Il y a un petit marché le mercredi matin, et des commerces de bouche qui sont des institutions, une librairie indépendante, un caviste bio, etc. On est vraiment dans un quartier qui est très, très attaché à ces petits commerces. Donc, je trouvais pertinent de venir compléter cette offre-là. Et donc, par la force des choses, donc, les autres fils conducteurs de la boutique, c'est l'artisanat, le circuit court. Voilà, globalement, ce sont des petites marques. Et donc, il y a aussi une notion de mutualisation à un autre niveau dans la boutique. Donc, moi, j'ai pu ouvrir que 15 jours et j'ai été couplée dans mon élan.
Oui, mais vous aviez déjà une expérience de chef d'entreprise.
Voilà, alors moi, au départ, j'ai une marque de vêtements. Que j'ai créé en 2013, qui s'appelle Down on the Corner. Et donc, je fabrique des vêtements et accessoires pour femmes, toujours dans cette démarche d'upcycling, donc en récupérant de la matière recyclable.
Et donc, vous avez fermé au bout de 15 jours.
Voilà.
Donc, comment ça s'est passé ?
Alors, ça s'est passé. Alors, je m'y attendais pas forcément, mais bon, il a fallu faire avec et surtout rebondir et s'adapter relativement rapidement. Et moi, en termes de digitalisation, alors je sais pas si vous rentrez ça dans cette thématique, mais moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux, par exemple.
Très bien.
Et ça, je trouve ça effectivement indispensable pour des petits commerces qui vont pas pouvoir forcément créer un site internet qui pourra pas lutter contre les géants de l'internet. Par contre, les réseaux sociaux, ça permet de créer une communauté, ça permet de fidéliser, ce qui peut remplacer peut-être une newsletter ou un abonnement. On s'abonne en fait à un compte Instagram, à une page Facebook, et on suit les actualités de la boutique par ce biais-là. Et donc par ce biais-là, j'ai mis en place depuis le confinement, donc j'ai ramené un peu les créations à la maison et j'ai fait mon petit catalogue sur PDF que j'ai mis en lien en ligne et que j'ai partagé via les réseaux sociaux notamment. Et donc ça m'a permis de présenter la boutique à des personnes qui n'avaient pas encore eu l'occasion de venir, ou des personnes même qui étaient loin, donc qui n'étaient pas sur la métropole bordelaise et qui étaient quand même potentiellement intéressées par ce que je proposais.
Hayat, je crois qu'il y avait vous êtes un peu dans le même secteur d'activité, on peut dire, même si oui. Vous ne faites pas vraiment du réemploi, mais de l'éthique. Comment justement vous voyez ce type d'expérience aujourd'hui qui est...
C'est rassurant, c'est réconfortant. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que Bègle, surtout le cours Victor Hugo, j'habite pas très loin. Et effectivement, c'est vraiment... Voilà. Non, mais c'est pour ça, parce que je l'ai connu via mon kiné. Donc le bouche à oreille marche très très bien.
Le figital.
Et voilà,
mais le bouche à oreille, il n'y a que ça.
Et comme ma kiné savait que j'étais justement créatrice de vêtements, justement avec des valeurs éco-responsables, éthiques, etc., elle m'a dit, franchement, tu devrais aller voir, elle fait vraiment des choses magnifiques et vraiment dans les valeurs que tu défends toi aussi. Alors du coup, pour le coup, on se sent vraiment moins seul dans ce domaine, parce que vraiment, là, il y a vraiment un besoin. Oui, il y a une demande aussi, ouais. Oui.
Non, je voudrais juste rebondir, parce que vous voyez, là, vous venez d'utiliser quelques mots qui peuvent se traduire par le digital. Vous parlez de bouche à oreille, de valeur.
De click and click.
Eh bien, comment traduire ça dans le digital ? C'est toute la question. Parce qu'en fait, on n'a rien inventé avec le digital, on a juste accéléré des processus. Ouais. Il faut vraiment travailler dans le bouche à oreille, et il faut travailler dans le référencement, et il faut travailler dans la visibilité. D'accord. Les réseaux sociaux, c'est assez génial. Sauf que on perd très vite la notion de gestion de la donnée. On perd très vite la notion d'appartenance à une communauté. On crée du buzz dans le bon sens, mais on n'arrive pas à maîtriser correctement sa gestion de la relation client.
Exactement.
En parallèle de ça. Donc dans la bouche à oreille, vous avez parlé de valeurs. En fait, il faut vraiment communiquer sur ces valeurs. Pourquoi ? Il ne faut pas que ça soit un produit commun. Il ne faut pas que votre produit soit vu comme une commodité. Exemple.
Alors nous, c'est ce qu'on nous a dit justement par rapport à notre marque. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important la digitalisation. Parce qu'on nous disait sur le physique, en fait, on prenait beaucoup ces valeurs. Et on nous le disait, mais ça transpire en fait toutes les valeurs. Vous le faites vraiment au quotidien. Mais lorsqu'on va sur Internet, on ne les voit pas. Et c'est vrai que nous, le plus gros du travail qui va se faire, on va dire, cette année, et surtout avec le confinement, ça s'est accéléré. Et c'est un peu comme Hélène, c'est-à-dire, c'est vraiment essayer de trouver une manière vraiment d'apporter les choses, de montrer ces valeurs-là, parce que ben, en fait, finalement, on n'est pas seul en fait, dans ce domaine, alors qu'on se sent seul. Hein, mais c'est vrai que dans ces valeurs-là, ben, on se dit, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait que les autres marques ou les autres boutiques ou... Voilà. On ne sait pas comment mutualiser. Comme vous avez parlé de mutualisation tout à l'heure au niveau des commerçants. Mais je ne la connaissais pas. Pourtant, je suis à 100 mètres. Hein, ce n'est pas, c'est pas très, très loin.
J'ai ouvert que 15 jours.
Voilà. Et du coup, c'est vrai que ben, oui, une mutualisation et surtout prenez ces valeurs-là parce qu'aujourd'hui on est quand même à un stade on va dire de la vie et au niveau de l'écologie, au niveau de la responsabilité humaine, on est vraiment vraiment dans le tard et il va se passer un moment où on n'aura plus le temps justement de prendre les devants, de montrer toutes ces valeurs et en fait on va faire que rattraper un TGV et non pas un train en fait au niveau surtout au niveau des commerçants. Ouais.
Et vous Hélène, comment vous avez rattrapé le train justement parce que on les voit quand même ce parti pris de mettre les valeurs en avant sur vos réseaux sociaux. Ça sent quand même, peut-être que vous avez envie, c'est toujours perfectible, mais sent quand même qu'il y avait une vraie volonté de mettre ça en avant et du coup vous passez la crise.
Oui. Alors, en fait, moi, la volonté, elle vient aussi du réseau que j'ai créé. En fait, c'est les marques que je représente. J'y suis très, très attachée. Ce sont des personnes que je connais, que je suis depuis des années. On a les mêmes valeurs de travail. On travaille le recyclage, le réemploi, le circuit court, la relation client de proximité. Donc, tout ça, c'est une suite logique, en fait. On a besoin de travailler ensemble pour se montrer, en fait, pour être plus visible et forcément pour travailler ensemble si on a les mêmes... si on va dans la même direction. Après, on parle de mutualisation là, pour le digital. Il faut que ce soit démocratisé. Il faudrait limite que ce soit des initiatives qui soient prises par des collectivités. Sinon on va se disperser.
Exactement.
Et ça va partir dans tous les sens. Et le consommateur, lui, il sera complètement perdu.
Philippe Webb, il faut démocratiser les plateformes. Il faut une volonté derrière collective.
Il faut une volonté collective. On a la chance d'être dans la région Nouvelle-Aquitaine parce que la région a toujours tiré vers le haut la digitalisation des entreprises. Côté industriel, ça a été fait avec des programmes comme l'usine du futur. Maintenant, il faut qu'on lance une grosse opération sur les commerçants de proximité. Et en fait, tous ces services qui ont souffert avec l'environnement de la Covid et puis des confinements respectifs. Une entreprise traditionnelle, indépendamment des commerçants, pendant les confinements, elle a souffert de pas avoir des outils de collaboration, des outils ce qu'on appelle collaboratifs en ligne. On a découvert la visioconférence, alors que moi je travaille avec depuis presque 15 ans. Donc on a découvert la visio d'entreprise, mais ce n'est jamais qu'un téléphone avec un écran qu'on connaissait sur un iPhone par exemple. C'est une des applications. Parce que je suis utilisateur d'iPhone. Donc, les entreprises n'étaient pas préparées à avoir un système digital, un environnement où sa relation client, elle devient digitale, son stock devait être géré de façon digitale, etc., etc.
J'ai envie de dire, même l'éducation nationale n'était pas préparée, et là, vous pointez quelque chose qui me semble important, et j'aimerais quand même quelques précisions. Digitaliser, c'est apporter des solutions informatiques à tous les niveaux, en fait, à tous les usages professionnels.
C'est pour ça qu'on dit le digital et le numérique.
Oui. C'est ça.
Le numérique, c'est l'outillage. Mais le digital, c'est la stratégie de l'entreprise, c'est la stratégie des hommes, c'est le développement des valeurs ajoutées. On a toujours pas parlé de produits technologiques. Et quand vous prenez le e-commerce, quand vous raisonnez e-commerce, qu'est-ce qu'il y a derrière e-commerce ? Achat, juridique, commerce, marketing, logistique, service. Vous avez donc 6 grands métiers à avoir si on veut être un e-commerçant de proximité, au minimum. D'accord ? Et on n'a toujours pas parlé de technologie.
Non.
Donc, on a parlé d'entreprise. C'est tout ce qui va faire la différence. Et on est en retard en France. Vous le disiez tout à l'heure, je peux vous donner les chiffres. Le territoire français, c'est le 18e pays européen.
Oui.
Il y a une étude qui a été faite par la Commission européenne. Nous sommes le 18e pays européen pour la digitalisation de ces entreprises. D'accord. En majorité, les entreprises dans leur secteur d'activité, ils sont à moins de 10-12% de digitalisation. Il en reste 80, dans la règle des 80-20. Comme on sait que la France, c'est 3,5 millions d'entreprises, 80% de 3,5 millions, ça fait 2,5 millions.
D'ailleurs,
il faut aider la digitalisation de 2,5 millions d'entreprises. Combien de commerçants ? Phénoménal. Mais il faut les mutualiser. Et donc, les maires des communes, les unions des commerçants, ils doivent aider à ça, associés avec la région.
Et justement, je crois qu'Ayat, en off, avait posé quelques questions sur le financement de ça. Je crois que chez Redivor Digital, vous accompagnez aussi au financement. Ayat, je te laisse reprendre le flambeau. Tu avais posé cette question en off et nos auditeurs ont le droit de savoir.
Oui, effectivement. Alors, juste avant de poser la question, parce que vous parliez justement de mutualisation, il faut savoir que la mairie de Senon, on ne l'a pas souligné, mais ça fait, je pense, alors sans dire de bêtises, depuis 2016, je crois même 2015-2016, ils avaient essayé justement au sein du site de la mairie de Senon de digitaliser les entreprises senonaises, donc de les répertorier et essayer justement de faire un genre de catégorie, voilà, avec toutes les entreprises de Senon. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand nous, en tant que marque, on nous l'avait proposé, on n'était pas encore enregistré en tant qu'entreprise, ça nous paraissait en fait tellement flou que ça ne nous intéressait pas, je le dis honnêtement, parce que pour nous, on se disait, mais comment en fait les personnes allaient venir nous voir si c'est dans le site de la mairie de Senon ? Parce que vous parliez de collectivité. Et effectivement, eux avaient un petit balbutiement sur ça. Ayant été aide éducatrice, Aïcha, tout à l'heure, vous parliez justement de limites de la formation scolaire. Il faut savoir qu'il existe le B2I. Donc, c'est un diplôme justement que les CM2 doivent avoir pour l'entrée en 6e. Et c'est toute une connaissance du numérique à avoir, du CP jusqu'en CM2. Et il faut savoir que la plupart des écoles ne le font pas. Donc effectivement, ça ne m'étonne même pas ce que vous me dites quand vous me dites qu'on est 18e dans l'Union européenne. C'est que vraiment, on a un très très gros problème avec le numérique, que ce soit au niveau de la formation qu'au niveau de l'entrepreneuriat. Donc on en revient à ce fameux financement, parce que c'est très intéressant. Donc comment on fait quand on est une petite entreprise et qu'on veut justement avoir tout ce côté digital et pas que le e-commerce, comment fait-on
pour... Et qu'on est à zéro trésorerie parce qu'on a fermé la moitié de l'année, parce que c'est quand même aussi une réalité. Vous parliez des aides de la région, c'est à 50%, mais il faut quand même mettre 5000 euros sur la table. Donc exactement. Concrètement, comment on fait ? Est-ce qu'il y a des accompagnements, des possibilités
Alors, je connais pas dans le détail exactement ce qui pourrait être fait, mais en tout cas pour les tout petits commerçants, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que évidemment ça va coûter un petit peu d'argent. Ça va coûter un petit peu d'argent, ne serait-ce que pour se former, se développer, s'instruire, se structurer. L'informatisation, malheureusement, ça nécessite un peu d'investissement. Mais dans l'esprit, il faudrait arriver à mutualiser et trouver des aides. Alors, il existe des aides via la formation professionnelle aujourd'hui. Il existe des aides via l'investissement dans le numérique. Tout compris, je ne sais pas si on va pouvoir couvrir 100% des besoins, mais une grande partie des besoins.
Alors, tout à l'heure, vous donniez un exemple entre une application, si nous financions, nous, en tant qu'entreprise, seule cette application, et si cette application était financée par une mutualisation de commerçants. Donc, vous donniez justement un exemple à ce niveau-là. Est-ce que vous pourriez nous le redonner ?
Oui, je parle beaucoup d'approche communautaire. Moi, j'aime beaucoup l'approche communautaire. C'est, en fait, un e-commerçant de proximité, c'est un commerçant qui sait gérer sa relation communautaire, sa relation d'environnement avec soit des commerçants de sa propre proximité, c'est-à-dire son voisin. Parce que dans une rue commerçante, vous n'avez pas qu'un seul commerçant. Donc, il faut savoir identifier ces commerçants voisins, ces commerçants en face, et se regrouper et se mutualiser. Donc, si on cherche un environnement communautaire, je disais tout à l'heure que la gestion de la relation client peut être la même, finalement, à quelque chose près, d'accord ? En tout cas, 80%, pas 20%. Et il existe de très bons fournisseurs de développement d'applications communautaires, iPhone, Android, des Bordelais, ça marche très bien. Mm-hmm. Globalement, ça coûte entre 20 et 25 000 euros pour se faire faire une application métier. C'est cher pour un commerçant, mm-hmm. mais si on l'utilise pour l'union des commerçants d'un centre-ville, peut-être c'est divisé par 30, peut-être c'est divisé par 40, mais les prix ne vont pas être beaucoup plus chers puisque la base fondamentale de l'usage sera la même. Mm-hmm. Et par contre, on aiguillera par des attributs, par des recherches, mm-hmm. un peu comme un site internet traditionnel. Parce que finalement, mm-hmm. quand vous tapez la question Q sur un moteur de recherche d'un site de e-commerce, eh ben, vous mettez par exemple, vous cherchez, je ne sais pas moi, une paire de baskets Adidas taille 11, taille américaine, on vous en propose. Mmh. Mais si vous tapez la même référence sur un site communautaire de centre-ville, eh ben, on va vous proposer le magasin Dupont ou le magasin Durand.
Tout à fait. D'où la
Et on va vous donner les adresses. On va vous donner le stock, parce qu'il faudra mettre le stock en ligne. Mmh. Et puis, il faudra faire un référencement, dire, quand vous arrivez, vous dites « Bonjour, monsieur Dupont, je suis monsieur Web, et je viens choisir ou essayer ma basket. Ouais. »
Et là, on parle de communication, oui, Hélène ?
Là, c'est à condition de vendre des marques qui sont connues, qui sont des marques installées. Par exemple, un commerce de bouche qui vend de la viande, ou par exemple moi qui vends de l'artisanat, donc ce sont des produits qui ne sont pas...
Oui, mais vous avez des valeurs, vous communiquez déjà. L'important, c'est de définir des mots-clés.
Comme un bandeau
Comme un bandeau.
Une barrette
Non mais dans le temps, on faisait comment ? Dans le temps, vous parliez tout à l'heure de bouche-oreille, on disait quoi ? On disait « Ah, ce magasin, il est génial parce qu'il a ce type de produit ou ce type de produit. » Il ne disait pas « Ce magasin, il est génial parce qu'il fait des remises toute l'année. Mmh. » Ça n'est jamais arrivé, ça. Mmh. On disait vraiment, on donnait des valeurs de service ou des valeurs de gentillesse ou des valeurs de produits, des produits cycle court, des produits
alternants,
des produits bio. Regardez l'émergence des magasins du bio, d'accord ? Oui. C'est parti de pas grand-chose. À l'époque, si vous vous souvenez bien l'histoire. Moi, je suis un peu plus vieux que vous. Je connais très bien l'histoire du bio en France, qui a été amenée par une personne très connue, d'accord, dans son début, dans sa vie professionnelle. Et ils ont eu du mal à démarrer. Et puis, c'est parti, d'accord. Maintenant, il faut donc définir des mots-clés typiques du digital, et les animer dans une communication active. Côté valeur ajoutée, service. Il ne faut pas parler du prix. Moi, je suis prof une fois par semaine dans les écoles de commerce à Bordeaux sur mon métier, la transformation digitale des entreprises. Mes étudiants me disent souvent, au début que je leur donne des cours, ils me disent « Ah, nous, on aime le prix ». Non, vous n'aimez pas le prix. Vous aimez le rapport prix-service. Mais exactement. Si le service, il est très bon, vous êtes capable de mettre un prix un peu meilleur. Parce que quand le service est très, très bon, on ne peut pas comparer tous les services. Donc, on achète au juste prix. Donc moi je dis, le digital, ça permet de vendre au juste prix des très bons produits de proximité. Des très bons produits de proximité, si possible, cycle court. Et il faut savoir alterner entre des produits cycle court de proximité et un peu des produits de marque. Mais ça, ça fait partie de la vie de tous les jours. Par contre, un boucher, on sait reconnaître la qualité de la viande. On sait définir un produit qui est de qualité. On sait sentir quelque chose de bon. Quand vous rentrez dans une charcuterie et que ça sent bon, on le dit tous. Oh, ça sent bon. Ben voilà, mais il faut. Et ça, c'est pas du digital. Hein. On peut pas mettre l'odeur à travers le digital.
C'est de l'expérience.
C'est de l'expérience et c'est des services.
Et l'expérience client, on a parlé d'audit, on a parlé de digitalisation, de solutions informatiques à tous les niveaux de l'entreprise. Une fois qu'on a pris en main les outils digitaux, il s'agit de communiquer, comme le fait Hélène, comme le fait Hayat, de communiquer sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter maintenant Laurence Lemoine, fondatrice de l'agence Imagine Marketing. Elle a répondu à nos questions ce matin.
Tout d'abord, moi j'ai fait mes études à Kedge il y a quelques années. J'ai complété cette formation par un parcours professionnel de plus de 15 ans comme responsable d'agence, puis responsable d'un service marketing et communication. Ce parcours m'a permis en fait d'acquérir une triple compétence métier en commercial, marketing et communication, que je mets maintenant au service de mes clients dans le cadre de l'agence Imagine Marketing Communication. Cette agence, je l'ai créée en 2012, ce qui me permet d'accompagner maintenant plus d'une soixantaine d'entrepreneurs dans le développement de leur activité, que ce soit au niveau du marketing stratégique, opérationnel et de la communication. Alors, je travaille principalement avec des artisans, des commerçants, des PME et des professions libérales. J'ai travaillé longtemps sur tout ce qui est carte de visite, plaquettes, signalétique, des supports imprimés. Et maintenant, une grande partie de mon activité est liée au digital et en particulier tout ce qui est animation de réalisation de newsletters, animation de sites web et de réseaux sociaux.
Quel conseil est-ce que vous donneriez aux commerçants qui débutent dans le e-commerce ou qui veulent simplement chercher davantage de visibilité ? Commencez par quoi ?
Alors, il y a un outil que je conseille beaucoup à mes clients et que je mets en place très, très régulièrement qui répond à cette double exigence, c'est-à-dire la visibilité et un outil qui soit simple à mettre en œuvre et en plus qui est gratuit et qui a vraiment un intérêt pour les commerces et les commerces qui ont une activité de proximité, c'est de développer une page Google My Business qui soit optimisée. Alors, c'est quoi une page Google My Business ? C'est une page qui va reprendre un descriptif complet de l'activité du commerçant avec des choses essentielles comme un numéro de téléphone, des horaires d'ouverture, une présentation détaillée de l'entreprise et qui permet également de l'utiliser comme réseau social puisqu'on peut publier des informations régulièrement sur cet outil. Alors, pourquoi je vous le recommande et surtout auprès des commerçants, c'est parce que il y a une grande majorité finalement des visites qui se font en magasin après une consultation sur Internet. Et moi, je travaille pas pour Google, mais vous savez bien que les recherches, elles se font principalement par cet outil. Quand on se connecte sur Internet, il y a 9 recherches sur 10 qui vont se faire via Google. Donc, en tapant une activité, un nom de commerce, un métier, on va arriver par le biais de cette page qui est gratuite à une page de présentation qui peut même se substituer à un site Internet dans un premier temps et qui permet de diffuser de l'information sur l'entreprise, ses valeurs, son actualité, mettre des photos, des mots-clés. Et ce qui est bien aussi, et c'est un outil que j'utilise beaucoup, notamment en faisant un reporting mensuel auprès de mes clients, c'est les statistiques qui sont fournies également par Google My Business, notamment sur le trafic généré, c'est-à-dire combien de personnes ont demandé un itinéraire pour se rendre au magasin, combien de personnes ont cliqué sur le numéro de téléphone. Donc ça se traduit réellement, et ça je l'observe moi au quotidien avec mes clients, ça se traduit réellement par du trafic supplémentaire généré sur site. C'est un outil qui a un très fort pouvoir au niveau local. Alors évidemment, il y a des mots-clés à rentrer, comme des noms de communes, comme des départements. Il y a un travail technique à faire en amont. On en parlera d'ailleurs certainement prochainement dans le cadre d'un atelier qui aura lieu avec le club de ce nom au courant du mois de janvier. Donc il y a un aspect technique, mais ça permet donc pour une entreprise qui veut être sur sa commune et les communes environnantes présentes et qu'elle puisse ressortir au niveau d'Internet, c'est un outil très intéressant et encore une fois gratuit. C'est le premier, moi je conseille vraiment à mettre en place. Un commerçant peut le faire lui-même s'il est un petit peu intéressé par cette partie et puis il peut trouver aussi des tutos sur Internet pour développer sa page Google My Business.
Et en termes de stratégie de communication, quel type d'accompagnement chez Imagine Marketing est-ce que vous faites ? Est-ce que vous accompagnez sur le long terme les entreprises qui viennent vous solliciter ?
Tout à fait, de plus en plus. Moi, j'ai eu un travail au début plutôt de répondre à une demande comme la création de cartes de visite ou de flyers lors de l'ouverture notamment d'un commerce ou de la signalétique. Mais maintenant, mon travail s'oriente principalement dans l'accompagnement et dans la création d'une stratégie et de la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie. Ça dépend un petit peu du client. Certains n'ont pas du tout, je dirais, d'intérêt ou d'attractivité pour tout ce qui est Internet. Donc, on travaille ensemble sur la stratégie, les messages à faire passer, l'actualité de l'entreprise, la saisonnalité. Et ensuite, je m'occupe de toute la partie recherche de visuels, proposition de rédaction et ensuite tout ce qui est calendrier de mise en ligne, de parution. Et puis d'autres sont plus moteurs et avec qui on va construire ensemble cette stratégie. Certains vont alimenter pour que je fasse ensuite toute la partie production et mise en ligne. Et d'autres peuvent être plus force de proposition et s'approprier un petit peu plus les outils.
Et est-ce qu'il existe aujourd'hui un secteur qui n'a pas besoin d'être digitalisé finalement, de communiquer ?
On le voit en ce moment. On voit bien au niveau de la télévision, on voit bien au niveau de tous les reportages que toutes les entreprises qui ont déjà mis en place une stratégie notamment de constitution de base de données clients et une stratégie de communication auprès de la clientèle et auprès des prospects, ont vraiment une longueur d'avance par rapport à celles qui doivent tout construire, c'est-à-dire faire un site internet, se constituer une base de données, travailler sur les messages à délivrer. Donc je ne pense pas qu'il y ait de secteurs qui ont besoin d'utiliser le digital. Mais les entreprises qui l'ont déjà fait ont vraiment une longueur d'avance pour animer leur communauté, faire passer des messages notamment liés à la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment et notamment sur les bonnes pratiques qui ont été mises en place par l'entreprise, hein, que ce soit en termes de gestes barrières, des mesures prises pour accueillir le public, la mise en place, je ne sais pas, d'un paiement sans contact ou des modes de circulation dans un restaurant à l'époque où ils étaient encore ouverts, ou bien les bonnes pratiques quant au nettoyage de véhicules pour un garagiste qui s'occupe de l'entretien de voiture. Voilà, toutes les entreprises qui ont déjà pris l'habitude de communiquer, elles ont les outils, elles maîtrisent les outils et elles peuvent faire passer des messages qui vont être liés à leur actualité ou à l'environnement qui a évolué ces derniers temps. Dans la situation où nous vivons en ce moment, il y a quelque chose qui me semble important, c'est de rassurer, de conserver la confiance finalement de la clientèle. Alors c'est vrai qu'en communiquant régulièrement au travers de newsletters ou des réseaux sociaux, ça permet de conserver ce lien. De renforcer aussi la proximité avec la clientèle auprès des clients. Ça permet de rassurer les clients et également des prospects potentiels. Ça permet aussi de se démarquer et de les inciter à franchir le pas et à venir nous rendre visite dans un commerce. Alors, rassurer, c'est important en temps de crise, mais il me semble aussi qu'il y a autre chose qui semble très important, c'est la capacité d'adaptation, la capacité de réactivité, d'innovation pour l'entreprise. Par exemple, adapter son offre produit. J'ai l'exemple d'un client qui propose du mobilier de bureau, mais qui depuis le mois de mars, par exemple, vend des séparations en plexiglas ainsi que des cloisons pour les bureaux auprès de sa clientèle. Mais du coup, il a aussi gagné de nouveaux clients en diversifiant son offre produit dans le cadre de la crise. En termes d'adaptation, on peut aussi adapter ses horaires d'ouverture, comme certains coiffeurs ont pu le faire, ou bien privatiser son magasin, par exemple, dans le cadre du prêt-à-porter. La mise en place, par exemple, du paiement sans contact ou de la vente à emporter pour les restaurants. Donc c'est vrai que cette crise, elle nous permet aussi de voir cette capacité qu'ont les entreprises et en particulier les commerçants de s'adapter, de se réinventer, de se questionner, et de se démarquer.
Philippe Webb, vous venez d'entendre Laurence Lemoine, fondatrice de l'agence Imagine Marketing. On est passé à la troisième phase, au dernier 100 mètres. À un moment donné, on a construit des outils digitaux, on s'est fait accompagner par votre agence, par Ready for Digital. On a trouvé des solutions numériques, informatiques et numériques. Aujourd'hui, il faut communiquer et donc cette phase-là, elle est aussi primordiale. Il va falloir générer du contenu. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer pour défendre sa marque aujourd'hui? C'est quoi quels sont les canaux de communication qui fonctionnent le mieux?
Alors moi, je suis un adepte de la communauté, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avoir des produits gratuits, on a du service en retour, c'est-à-dire peu. C'est-à-dire on perd la maîtrise de la gestion de la relation client. Donc, il faut savoir communiquer correctement, comme dans l'ancien temps, vis-à-vis d'un fichier client, mais un fichier client qui est dynamique. Il faut donc communiquer sur ses valeurs d'entreprise et après sur les événements. Alors, on dit souvent qu'il faut communiquer de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et il faut utiliser tous les moyens possibles. Alors, les réseaux sociaux sont bien, très bien. Le seul bémol que je mets sur les réseaux sociaux, c'est la taille de son mur d'information. Parce que plus on a de l'information, plus son mur il est important, plus on passe des heures sur son mur. Or, votre cliente, elle va passer combien ? Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure par jour, et encore c'est beaucoup, d'accord ? Sur son mur. Donc, il faut vraiment la capter par rapport à des mots-clés et des recherches très précises. Si on travaille dans un environnement communautaire, c'est facile parce qu'on pousse l'information. C'est nous qui poussons l'information et on est sûr qu'elle arrive. C'est quand vous recevez un message WhatsApp, vous voyez, il y a un petit 1, un 2, un 3 qui s'affiche. Sur une approche communautaire, c'est la même chose. Et après, il faut vraiment travailler avec un fichier et un outil de CRM, une gestion de la relation client, basée sur l'expérience client, ciblée. D'accord. Et après, si vous avez un site internet, il faut faire vivre le site internet. Mais moi, je pose souvent à mes clients la même question et ça me fait souvent sourire la réponse. Est-ce que vous croyez que votre site internet, il est actif ou passif, monsieur le client ? Dans une grande majorité, les gens, ils croient que c'est actif. En fait, un site internet, c'est passif. Et la difficulté, c'est le rendre actif. Et je dis souvent, est-ce que c'est Google ou vous le plus riche ? C'est Google. Donc, plus vous allez acheter des mots-clés, plus Google va être riche. Il faut savoir que n'importe quelle entreprise peut acheter des mots-clés. Donc, son référencement naturel, il n'est pas naturel. Il est acheté. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Par contre, c'est incontournable. Il faut être sur Google My Business, comme il faut avoir un site Internet, comme il faut avoir un environnement communautaire, comme il faut gérer sa gestion de la relation client. Il y a 4 actions à mener. Et si on fait ça bien, on le fait pour la vie. Et on n'a pas à le refaire. Comme dans le temps, quand vous aviez votre fichier client, vos cartes de fidélité, vous animiez ça. Avant, on avait la carte de fidélité. Pourquoi ? Ouais. Pour faire en sorte que les gens reviennent. Ce n'était pas pour se faire plaisir.
Et justement, ce que vous dites, et du coup, peut-être vous parle, Hélène, puisque vous-même, pendant des années, vous avez eu des relations avec ces marques, vous avez créé cette communauté, et du coup, sur vos réseaux, forcément, vous les taguez, j'imagine que vous les identifiez quand vous faites des publis.
J'ai presque tout bon, alors j'ai la communauté, j'ai le catalogue que je vais garder, du coup, puisque c'était une initiative qui a été créée que pour le confinement, mais je remarque vraiment qu'il a un impact aujourd'hui que la boutique est ouverte, les gens adorent regarder ça tranquillement chez eux et ils arrivent à la boutique, ils savent déjà ce qu'ils veulent, j'ai même pas besoin de m'en occuper. Donc les réseaux sociaux, le site internet, je pense pas que ce soit nécessaire, en plus ça demande un travail supplémentaire parce qu'un site internet ça s'alimente, ça se réactualise quand même au quotidien. Et puis si on a créé une boutique de proximité, c'est quand même pour avoir du lien social, donc il faut que les gens viennent à la boutique quand même.
Ayette, une réaction, vous-même, vous avez appris des choses ce soir ?
Beaucoup, puisqu'on n'a pas de boutique physique, je tiens à le resignaler. On travaille beaucoup avec notre site internet, réseaux sociaux, bouche à oreille, les événements physiques que l'on fait aussi, parce qu'on a beaucoup de proximité aussi avec la clientèle, beaucoup de conseils en images aussi. Et en fait, avec tout ça, ça me conforte dans l'idée que notre page Instagram, elle n'est pas très fournie, comme disait justement monsieur, là, tout à l'heure, il y a 2 minutes, parce que trop d'informations tuent l'information. Avoir 36 000 photos, en fait, ça dessert plus le produit qu'autre chose. On reste, nous, dans notre côté un peu unique ou vraiment très... parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que le web pollue. Ça, on ne le dit pas assez souvent. On ne fait pas notre nettoyage de boîte mail, etc. Et en fait, polluer aussi avec des photos, c'est aussi une façon aussi de montrer les vêtements. Oui, OK, c'est super. Ça pollue toujours autant, aussi au niveau image, au niveau web, qu'au niveau physique. Donc, en fait, on a nous, ces valeurs aussi de garder aussi ce petit côté restreint, ce petit un peu côté cocooning. Ce qui nous sert bien actuellement. Maintenant, je pense que le site internet, on va plus se peaufiner. Pareil, on n'achète pas de mots-clés. On est plus, nous, sur du référencement, naturel, un peu plus constant. Donc, avec justement des liens sur nos pages.
Mais ça finit par payer.
Complètement.
C'est du boulot.
C'est vraiment de la minutie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de peur de l'entrepreneur face à la charge de boulot qui est déjà existante sur le côté physique, mais aussi sur le côté virtuel. C'est du boulot. Alors, on a aussi une frustration avec mes associés, avec mes 2 autres associés, parce que des fois, on a l'impression de ne rien faire. Et on s'est dit, c'est pas possible, le résultat n'est pas là. Par rapport à d'autres marques de vêtements, ils inondent le web de photos tous les jours, quasiment 2-3 fois par jour. Et en fait, la patience paye. Parce que finalement, en fait, ce produit qu'ils ont vu il y a quelques mois, quand on le rebalance, en fait, 3 mois après, sous une autre façon de porter, etc., en fait, on dirait qu'il est neuf, ce modèle-là, alors que ça fait 3 mois qu'il est là, qu'il est en édition limitée, et on communique, on recommunique dessus.
C'est l'occasion de montrer les coulisses aussi, de montrer un peu l'envers du décor, ça intéresse.
Alors, les coulisses...
En fait, un commerçant, comme une entreprise, ça devient un labo de films, un labo de vidéos, un labo de communication active. On peut peut-être monter une radio, de la chaîne radio des commerçants. C'est un tout en un. En fait, on ne communique pas de façon digitale sur un seul support. C'est la somme des supports qui va fédérer la relation avec l'entreprise ou le commerçant de proximité. Mais il faut s'appuyer surtout sur des valeurs. Je dis souvent, on pourra peut-être terminer là-dessus, je ne sais pas, mais le digital, ça permet de transformer quelque chose de commun en valeur ajoutée service. Exactement. Et plus vous allez être en valeur ajoutée service, plus vous allez vendre un produit de qualité, référençable et avec une belle marge. Parce qu'il ne faut pas non plus être toujours dans un modèle où c'est le prix tiré vers le bas. Exactement. Qui va développer les entreprises. Ce n'est pas vrai, ça.
C'est ça.
Ce n'est pas vrai.
La prochaine émission, justement, sera consacrée à l'économie bleue. Et je crois qu'autour de la table, vous savez de quoi on parle. Et à ce moment-là, on parlera justement de cette pollution numérique et qui est évidemment au cœur du problème, puisque se développer, oui, mais comment et à quel prix. On retiendra de cette émission que se mutualiser, le travail collaboratif, la coopération, finalement, a de beaux jours devant elle, qui a peut-être aussi de la place pour tout le monde, parce qu'on a énormément de gens qui font de la communication. Et pour répondre à votre question, Hayat, oui, c'est du temps, c'est, oui, du travail, c'est du travail, c'est de l'investissement, mais on n'hésite pas non plus, en tant qu'entrepreneur, parfois, à investir dans certains domaines sans se poser de questions. Aujourd'hui, on en arrive à cette digitalisation. Il faut peut-être en payer le prix, que la France paie le prix de cette digitalisation à un moment ou à un autre pour pouvoir passer dans la cour des grands. Je vous remercie, Philippe Webb, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'agence Ready for Digital. Un site internet pour avoir toutes les informations, peut-être ?
www.readyfordigital.com.
Alors, Ready comme prêt, prêt à tout, R-E-A-D-Y, fort, le chiffre 4, digital, comme ça se prononce et comme ça s'écrit au futur. Hélène Boulet, la petite surface à Bègle, pour vous trouver une page Facebook ?
Alors, page Facebook, petite surface Bègle, et Instagram, petite surface, _8_. On tape petite surface, on me trouve en général. Et merci. Alors, à vous.
Merci à vous d'avoir été là.
Merci beaucoup.
On espère vous réinviter pour que vous nous parliez de tous vos objets, de tout ce qu'on peut trouver.
Plaisir.
Peut-être pour Noël, c'est peut-être le moment ou jamais d'aller, après oui. tout. Donc,
tout à fait.
Et de vous participer peut-être à des marchés de Noël digitaux, des choses comme ça.
Alors, maintenant que j'ai ouvert ma boutique, c'est vrai que c'est un peu compliqué
d'être partout.
De se disperser comme ça. Moi, j'ai toujours mon site internet pour ma propre marque, darlonthecorner.com. La boutique, donc avec toutes les copines recycleuses avec moi. Et après, je pense que je laisse la place à celles qui n'ont pas de boutique physique pour se montrer. Étant donné que tous les marchés sont annulés, c'est compliqué quand même.
Voilà, on retiendra la mutualisation, Hayat. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, Hayat Tieno, Rokayamina Création. Rokayamina, je ne me suis pas trompée.
Plus simple, rya-du-6-création.com.
Ça, c'est le site internet.
Voilà.
Rokayamina, c'est des fringues griffées pour Noël aussi, c'est une bonne idée. Je suis désolée d'arrêter cette émission-là. On vous recevra à nouveau avec plaisir. Je vous remercie encore. Et je remercie Nicolas Cantigno à la régie ce soir. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée vendredi, déjà le mercredi à 9h et vendredi à 11h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Hayat, si elle le veut bien, dans 15 jours, avec toute l'équipe de Haute Radio sur la même fréquence, 91.3. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci.
We'll be right back.